Aujourd'hui, psaume 139, un psaume dans lequel David contemple Dieu et nous rappelle comment Dieu est un Dieu qui nous connaît, qui est toujours là pour nous, qui nous a formés et qui veut nous examiner et nous conduire. Si vous allez voir, alors qu'on va lire, vous allez faire « Ah oui, c'est un psaume qu'on connaît bien, un psaume dont il y a beaucoup de versets qui sont retirés, qu'on se rappelle régulièrement des belles paroles à propos de Dieu ». Et avant de lire, je veux juste nous rappeler, les psaumes, c'est à la fois des chants qui sont écrits et qui sont faits pour être chantés ensemble. C'est aussi des prières, c'est un moyen de conduire le peuple à prier et à célébrer Dieu, à chanter Dieu. C'est pas quelque chose de juste, oui, le psalmiste va l'écrire pour lui-même, mais c'est fait pour être partagé avec le peuple. C'est la raison pour laquelle on les a aujourd'hui. C'est pas juste David qui prie ou qui chante dans les chants ou dans la salle de trône, mais c'est écrit, c'est transmis pour que le peuple chante, pour que le peuple prie ensemble. C'est une manière aussi d'enseigner le peuple. Donc, il y a plein de choses à apprendre à travers ces psaumes, à travers ces chants. Et alors qu'on lit, rappelons-nous que c'est des prières pour nous. Vous pouvez revenir à la maison et dire, « Hey, je vais prier ce psaume. » Parce que c'était à ça que ça servait, à transmettre au peuple. Voici comment vous pouvez prier. Voici comment vous pouvez louer Dieu. Psaume 139. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont si plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leur projet criminel. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent. Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce psaume que tu as mis dans le cœur de David, que tu as inspiré pour qu'il parle pour toute l'éternité aux chrétiens, Seigneur Dieu. Merci parce que tu te révèles dans ce psaume, Seigneur, tu révèles ton cœur, tu révèles ta personne, ô Dieu, et tu révèles à quel point tu veux être là pour nous, ô Dieu. Seigneur, je te prie ce matin que ton esprit utilise cette parole pour semer, Seigneur, une graine de vie en nous, ô Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs paroles que vous avez reconnues. Que je suis une créature si merveilleuse. Sonde-moi, examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Et à travers tout ça, vous avez fait, pourquoi il parle de tuer les méchants en plein milieu d'un psaume? On va y revenir plus tard. Un psaume qui se divise en quatre sections. C'est quatre sections de six versets chacune et qu'on va regarder ensemble. Donc, on va avoir quatre points ce matin. Dans cette section, les deux derniers versets viennent conclure la partie, nous aident à comprendre comment nous, en tant qu'auditeurs, nous devons répondre, comment nous devons réagir face à ce que le psalmiste nous révèle dans la première partie. Et alors qu'on va regarder les différentes sections, on va d'abord voir ce que David exprime sur Dieu. Parce que David exprime des vérités sur Dieu, et on va les regarder ensemble. Ensuite, on va voir comment David, lui, réagit à ça. C'est quoi sa réaction face aux vérités qu'il découvre sur Dieu? Et comment ça s'exprime aujourd'hui? Comment ça s'applique aujourd'hui pour nous au regard de ce que Jésus a fait pour nous? Donc, regardons la première partie, les versets 1 à 6. Hein, on va le relire. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Dieu nous connaît. Il nous examine. Il connaît tout de nous. Nos actions, où nous sommes, nos pensées, nos paroles. Le verset 4 dit, « La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. » Et ça, ça peut faire peur. Hein? Des fois, on dit tourner sa langue cette fois. Mais avant que ça sorte, Dieu il sait déjà. Parce qu'il connaît aussi nos pensées, il connaît nos voix, il connaît nos motivations. Il connaît notre vie publique, hein, c'est dans les versets qui disent « quand je me lève, quand je marche », et notre vie privée aussi, quand je m'assieds, quand je me couche. Ça parle de notre vie privée, quand dans l'intimité, Dieu connaît toutes choses. Hébreux 4, 13 nous dit « aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte ». Dieu connaît toutes choses. On parle ici de son omniscience, le fait qu'il connaît toutes choses. Et dépendant de comment vous êtes de votre relation avec Dieu, ça peut soit faire peur ou soit être rassurant. Pour certains, Dieu connaît toutes choses. Tout ce qu'ils se mettent à penser, c'est « oh, leur mauvaise pensée, leur mauvaise action ». Oh, Dieu est au courant de ça. Hein, Hébreu nous dit à celui à qui nous devons rendre compte. Il y a quelque chose d'inquiétant ou quelque chose de « oh, ok, oh, Dieu est au courant de tout ça ». Mais pour le psalmiste, c'est quelque chose de rassurant. En verset 5, il dit « tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi ». Il y a ici l'idée de protection, sa main est sur nous, nous sécurisant, nous stabilisant, nous dirigeant, nous protégeant. Dieu connaît ce qui est le meilleur pour nous, il nous guide dans ce qui est le meilleur pour nous. Et, il y a un bruit, c'est pas moi là, c'est à l'extérieur, c'est ça, ok, c'est beau. Ou c'est un instrument, mais d'accord, c'est pas moi, ok. Dieu est là pour nous. Et si vous êtes en paix avec Dieu, si vous êtes vous êtes sauvé, vous êtes en relation, vous êtes un enfant de Dieu, ce verset-là est rassurant. Parce que si Dieu sait tout de vous, il sait aussi ce qui est le meilleur pour vous. Si Dieu est celui qui vous a créé, il sait ce qui est bon pour vous. Et il est là avec vous, il va vous guider, il va vous protéger. Hein, tu mets ta main sur moi, c'est l'idée de protection et de soutien. Et c'est quoi la réaction de David? David est émerveillé. Il est dépassé par la grandeur, par la profondeur de la connaissance de Dieu. Verset 6, ça nous dit, « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Quand David essaie d'imaginer que Dieu connaît toutes choses, mais réalise que c'est impossible de pleinement le saisir, de pleinement le comprendre. Ça dépasse ce que notre intelligence peut saisir. Est-ce que vous êtes déjà arrêté puis dire, OK, Dieu connaît toutes choses? Puis essayez d'imaginer ça. À un moment donné, notre cerveau, il est juste plus capable. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer. C'est comme d'imaginer l'éternité. À un moment donné, oh non, notre cerveau n'est pas capable d'imaginer de telles choses. A.W. Tozer écrit, Dieu connaît toutes choses, toutes les créatures, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé, tous les désirs, toutes les motivations, toutes les causes, tous les sentiments, toutes les émotions, tous les secrets non dits, toutes les personnalités, toutes les choses visibles et invisibles dans le ciel et sur la terre, dans tout l'univers, dans tous les temps passés, présents et futurs. Parce que Dieu connaît parfaitement toutes choses, il connaît tout également. Il n'y a pas des sujets sur lesquels il est meilleur que d'autres. Il découvre jamais rien. Il n'est jamais surpris. Il n'est jamais émerveillé. « Oh, je ne m'attendais pas à ça. » Il ne s'interroge jamais. Il n'est jamais à la recherche d'informations ou de connaissances. Il connaît tout. C'est une réalité qui dépasse notre compréhension et qui peut être effrayante. Mais en lisant ce psaume, on réalise que David ne parle pas seulement de l'omniscience de Dieu. David n'est pas en train de faire une présentation théologique sur qui Dieu est. Parce que non seulement Dieu connaît tout de lui, mais le verset 1 nous dit, « Tu me connais. » Dieu connaît David. Et en hébreu, l'idée de connaître quelqu'un signifie d'être en relation personnelle avec cette personne. Hein, c'est la différence entre connaître des choses à propos de quelqu'un et connaître une personne. Il y a une connexion qui est établie. David réalise que Dieu le connaît intimement. Il le comprend parfaitement. Et cette relation entre Dieu et Père, entre Dieu le Père et le roi David, trouve son accomplissement parfait dans notre roi Jésus-Christ. Matthieu 11, 27, Jésus va dire, « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus dit, « Mon Père me connaît parfaitement, et moi je connais parfaitement mon Père. » Il y a ici cette idée encore de relation. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance de cœur. Et en Christ, chaque croyant en vient à être connu d'une manière relationnelle de la part de Dieu. Avec cette connaissance intime et personnelle, et à connaître Dieu avec le statut privilégié d'enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes maintenant connus de Dieu. Galates 4, 9 nous dit, « Mais maintenant vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connus de Dieu. » Amen. Dieu nous connaît entièrement, d'une manière personnelle, d'une manière intime. Jésus parle dans Matthieu 7, 23, et ce n'est pas à l'écran, mais il raconte une parabole, et à la fin de la parabole, c'est une des choses les plus épeurantes qui peut être, c'est que les gens qui se présentent devant Dieu, en pensant qu'ils ont bien agi toute leur vie, et Jésus dit à la fin, je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Hein, on ne parle pas ici de connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance de cœur. Jésus dit, je n'ai jamais été en relation avec vous, malgré toutes les œuvres bonnes que vous avez faites. Je n'ai jamais été en relation intime et profonde et personnelle avec vous. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à être connus de Dieu et à connaître Dieu. Et David est capable de dire, « Seigneur, tu m'examines, tu me cherches, tu creuses et tu me connais. » Plus que juste une connaissance intellectuelle, même si, wow, c'est extraordinaire tout ce que Dieu connaît, mais tu connais moi. Tu connais tout de moi. Deuxième partie, verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. La deuxième partie de ce psaume nous parle de l'omniprésence de Dieu. Hein, Dieu est partout. Pas seulement il peut aller partout, mais il est partout à la fois. Et cette partie, c'est une suite logique à ce que le psaume nous a révélé en premier. Face à la réalisation que Dieu sait tout, la réaction peut être de vouloir fuir Dieu, surtout si on n'est pas en paix avec Dieu, de se cacher. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Quand ils ont réalisé leur péché, leur première réaction était de « cachons-nous de Dieu ». Jonas, c'est la même chose. Quand Dieu l'appelle à une mission qu'il ne veut pas accomplir, sa réaction, c'est de fuir Dieu. Et il découvre, hein, dans les deux cas, ses expériences. Et le psaume nous rappelle qu'on n'est jamais caché de la face de Dieu. Qu'on ne peut pas fuir Dieu. Mais pensez-vous que David essaie de fuir? Est-ce que c'est logique avec ce qu'on vient de lire sur comment « Wow, je suis émerveillé par ta grandeur » David n'essaie pas de fuir. Ici, il va utiliser une image. Il s'imagine, si je voulais fuir, pour rappeler au lecteur que Dieu est partout. Et il va utiliser plusieurs opposés, plusieurs extrêmes pour le démontrer. En verset 8, on voit « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Les deux extrêmes, le plus haut et le plus bas. Pour les Juifs, le séjour des morts, c'était sous la mer, c'était l'endroit le plus bas. Que David soit au plus haut ou au plus bas, Dieu y est. Et donc, logiquement, partout entre les deux. Et c'est à la fois une description littérale, hein, dans l'espace, et aussi métaphorique. Que je sois dans les moments de ma vie qui sont comme le ciel, que je suis au plus haut, hein, je suis en haut de la montagne, j'ai réussi, ou que je sois dans des moments qui sont comme le séjour des morts, Dieu est avec moi. Le psaume 23 nous dit... Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Qu'on soit dans les moments, les highs de notre vie ou les moments difficiles, Dieu est avec nous. C'est une promesse que la parole nous donne. Dieu est avec nous en tout temps, il ne nous abandonne pas, il nous accompagne. Verset 9 dit, « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre. Hein, » Et l'aurore, c'est le lever du soleil, c'est l'est. L'aurore, c'était le matin, mais ça représentait tout ce qui est à l'est. Et la mer, pour le peuple d'Israël, c'était à l'ouest, c'est la mer Méditerranée. Pour eux, c'était le plus loin qu'ils imaginaient, le bout de la mer Méditerranée. Donc, c'est l'ouest, c'est le coucher du soleil. Donc, autant vers l'ouest... que vers l'est, tu es là. Hein? Ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Comme un père qui prend la main de son enfant pour le stabiliser et le diriger, la main de Dieu nous prend, nous soutient. Si je me dis, au verset 11, « Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Est-ce que vous êtes déjà fait réveiller en pleine nuit par une lumière qui allume dans votre chambre? Ah, qu'est-ce qui se passe soudainement? On a installé des nouveaux rideaux chez nous qui sont extrêmement opaques. Et je réalise que d'habitude, la nuit, nos yeux s'ajustent. Là, avec les rideaux, il n'y a plus aucune lumière. Donc, quand c'est la nuit... Même en milieu de la nuit, il fait extrêmement noir. Puis je vois plus les meubles, puis là, je me fais mal, je me cogne. Là, je suis comme, oh non, il faut trouver. C'est bien, des rideaux opaques, mais là, c'est spécial. Là, j'ai montré aux enfants, on a fermé la porte, puis là, il dit, ah, il fait noir, on se voit même pas de face quand on est collé en pleine nuit. Puis là, t'es là, OK, c'est possible, la grande noirceur où on voit plus rien du tout. Et des fois, nos vies sont dans cette noirceur. Des fois, on est dans des moments où on fait comme, il fait noir, il n'y a plus aucune lumière, il n'y a plus aucun espoir. C'est ténèbres autour de nous. Et David dit, même quand les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière quand tu es là. Un Dieu qui est notre lumière nous éclaire. Notez encore le côté très personnel de ce psaume. David ne fait pas juste dire des faits sur l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout, il peut être là, il fait ça et comme ça. C'est pas juste que Dieu est là qui l'impressionne. C'est que Dieu est là pour lui. Personnellement, pour le soutenir et pour le garder. Il parle dans le « je », que je sois là, tu es là. Que je sois dans les ténèbres, tu es avec moi. Tu m'empoignes, tu me conduis. Tu éclaires les ténèbres. Non seulement Dieu est là, mais il est là pour nous conduire, pour nous soutenir. Sa présence, c'est un réconfort, un encouragement, un soutien. C'est pas juste de dire, ah oui, Dieu est partout. D'accord. Non, c'est Dieu est partout pour moi. Il est avec moi, il est de mon côté. Pour David, que Dieu le connaisse et qu'il soit avec lui, c'est rassurant. C'est réconfortant, c'est encourageant. Et en Christ seul, la présence aimante de Dieu, notre Père céleste, nous accompagne, peu importe la noirceur de la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle nous sommes parfois dirigés. Peu importe les ténèbres dans lesquelles vous êtes, peu importe les difficultés que vous passez au travers, Dieu est avec vous. Rien dans toute la création, même pas la mort elle-même, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. En Romains 8, verset 38, nous dit, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dieu sait tout de toi et Dieu est toujours là pour toi. C'est rassurant parce que moi, je me dis, si Dieu sait tout de moi, je pense qu'il va vouloir partir. Il y a des choses que, hey, non Seigneur, on se sent parfois humilié ou parfois ça nous écrase de savoir que Dieu sait tout de nous. Mais David dit, tu es toujours là pour moi. Pour me soutenir, pour me relever. Et plus que ça, Dieu nous a formés. Un verset 13 nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Mon corps n'est pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Quel merveilleux texte pour parler de la naissance, pour parler de la création de l'être humain. Eugene Peterson dit, « Dans la présence de la naissance, nous ne calculons pas, nous nous émerveillons. » Avez-vous déjà regardé des vidéos qui expliquent tout comment la formation du bébé, puis là, avec des images, depuis qu'on a certaines technologies, là, on peut voir avec des caméras ou avec des différentes technologies, le fœtus qui grandit. Et c'est fabuleux. C'est émerveillant. Hein? On est comme, waouh, tout ce qui se passe, et chaque détail est pensé, chaque chose, et tout fonctionne. Et j'imagine David de la même manière, hein, qui regarde son corps, qui regarde les bébés qui naissent, qui voit la grossesse, fait « C'est incroyable! Tes œuvres sont admirables! » Non seulement Dieu nous connaît parfaitement et il est toujours avec nous, mais David continue et affirme que Dieu nous a formés. C'est lui qui nous a fait. Si on est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et les mots utilisés par le psalmiste sont magnifiques. Hein? Il nous a formés, il nous a tissés, il nous a inscrits. Aux yeux de David, on n'est pas le fruit du hasard, mais on est l'œuvre, on est l'ouvrage, on est la création artistique de Dieu. Vous êtes une œuvre d'art. Vous êtes l'œuvre que Dieu a créée. Et non seulement Dieu nous a formés, mais aussi planifier, déterminer nos jours. Le verset 16 dit, « Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre est inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. » Éphésiens 2:10, et ça a été notre verset thème du camp des enfants, nous dit, « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est le dernier geste, c'est le seul que je me souviens, oui. Dieu a préparé des œuvres pour nous. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Il ne nous a pas juste créés, puis après, allez-y, faites ce que vous voulez. Non, il y a des œuvres pour nous. Jérémie 1,5, Dieu parle à Jérémie et dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Encore notre terme, « je te connaissais. » Avant même que tu existes, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Dieu avait des plans pour Jérémie de toute éternité, parce que Dieu connaît toutes choses. Avant que vous soyez, Dieu savait que vous seriez là. Il y avait des projets pour vous. Hein, qu'on puisse pratiquer ce que Dieu, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. En verset 13, nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Et on a souvent utilisé ce texte dans le but de s'encourager à avoir une meilleure estime de nous-mêmes, à se trouver beau et belle, à s'aimer tel que nous sommes, en disant, hey, oublie pas, t'es une créature si merveilleuse. Et c'est vrai, hein? C'est vrai, nous sommes des créatures merveilleuses et on doit apprendre à s'aimer nous-mêmes. Mais David n'est pas en train de se regarder dans le miroir, de regarder son six-pack, ses biceps. C'est comme ça que j'imagine David avec une chevelure dans le vent. Il dit, « Wow, je suis une créature si merveilleuse. » Au coucher du soleil, il se regarde. David est en train de réfléchir au fonctionnement de son corps dans sa globalité. Hein, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins. » Et les reins, c'est les organes internes. David observe son corps, comment tout fonctionne. Et il est émerveillé. Il réalise qu'il est une créature si merveilleuse. Pas à cause de son apparence, mais à cause de comment son corps est extraordinaire. Est-ce que vous êtes déjà émerveillé en regardant, en réfléchissant, en découvrant comment fonctionne le corps humain? Avez-vous déjà remercié Dieu pour vos reins? Merci Seigneur pour mon estomac qui digère tout. Avez-vous déjà remercié Dieu pour votre corps, à quel point il est fascinant? Merci pour mes genoux, même quand ils font mal, Seigneur, ils plient quand même. Puis, hein, c'est notre corps est fascinant, il est incroyable, il est merveilleux. Je suis une créature si merveilleuse. Pour David, son corps entier est une évidence que Dieu est digne de louange et d'adoration. Une démonstration de la sagesse de Dieu. Et trop souvent, notre problème vient du fait que, pas du fait qu'on se considère trop petit, trop imparfait, mais du fait qu'on ne voit pas ou on ne réfléchit pas assez au Créateur de notre être entier. On regarde nous pour faire, oh, je ne parais pas bien, oh, je ne suis pas beau, oh, je ne suis pas belle. Puis on se rabaisse nous-mêmes au lieu de se tourner vers le Créateur de toutes choses. Et c'est ce que David il fait ici. Hein, il dit, « Wow, quelle créature que je suis! » Non, il dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Quand David se regarde, ses yeux se tournent vers Dieu. La solution, ce n'est pas simplement d'avoir une meilleure opinion de nous-mêmes, mais c'est premièrement de demeurer en Dieu. On a été créé pour une adoration éternelle, pas simplement des doses quotidiennes d'estime de soi. Hein, c'est pas simplement en se regardant le matin et en se disant, « Hey, beau bonhomme, que tout va changer. » Les mots David ne doivent pas nous amener à se regarder le nombril. C'est pas des paroles égocentriques. David n'est pas en train de dire, « Regardez-moi, je suis une créature si merveilleuse. » Mais alors qu'il regarde la création merveilleuse, ses yeux tournent vers Dieu, vers le Créateur. Elle doit nous emmener à contempler la gloire de Dieu qui remplisse ces versets. Dieu est créatif. Dieu est tout-puissant. Dieu est près de nous. Dieu est capable de tellement nous émerveiller par qui il est qu'on n'aura pas besoin d'être beau et belle, d'un point de vue très humain du terme. On va être trop occupé à adorer. On ne passera pas l'éternité dans notre nouveau corps céleste à regarder notre corps et dire « Wow, c'est un corps incroyable, enfin! Enfin, c'est parti! » Non, on va passer l'éternité à dire « Wow! Seigneur, tu es merveilleux! » Parce que c'est pour ça qu'on a été créé, pour adorer. Et alors qu'on loue Dieu pour son œuvre merveilleuse, il reçoit la gloire et nous recevons la joie. Pas le plaisir temporaire qui vient lorsqu'on est satisfait de notre apparence. En Proverbe 31:30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire ». Et on parle ici de beauté dans les critères humains ou culturels de la chose. C'est quelque chose qui passe. Et le proverbe dit, c'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Alors qu'on apprend à adorer Dieu pour qui nous sommes, on en vient à nous apprécier, à nous aimer nous-mêmes, à nous trouver beau. Non pas à cause de ce qu'on voit dans le miroir, mais parce que notre âme sait que le Dieu de l'univers, le Créateur de toutes choses nous a fait, il nous aime, et il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous et il vit en nous. On réalise qui nous sommes en Dieu et comment lui nous perçoit et on trouve toute notre valeur en lui seul. Et c'est alors que David dit, « Wow, tu me connais parfaitement, tu es toujours là pour moi, tu m'as formé, tu as des plans pour moi, je suis une créature si merveilleuse et je te loue pour ça. » Je veux pas vivre dans le regret de ne pas être quelqu'un d'autre, de ne pas avoir des parents différents ou une éducation différente, de ne pas avoir le corps que j'aurais pas pu considérer comme étant idéal. Parce qu'autant imparfait et parfois douloureux que tout ça peut me sembler, j'ai confiance qu'en Christ, Dieu m'a fait tel que je suis pour le but qu'il a pour moi. Je relis Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans cette partie du psaume, David désire nous rappeler que Dieu se soucie de nos débuts. Hein, c'est lui qui t'a formé. Dieu t'a voulu. Et qu'il se soucie de notre avenir. C'est lui qui nous a fait. Et comme David, qui ne peut que s'émerveiller et adorer face à l'œuvre du Créateur, on est également appelé à être émerveillé et à adorer dans sa présence. Dernière partie. Et vous allez voir, il y a un clash soudain, parce que, wow, on est comme, wow, la grandeur de Dieu. Dieu me connaît, Dieu est là pour moi. Dieu m'a formé. Ça nous parle comment Dieu est infiniment grand. Et là, verset 19, David dit, « Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leur projet criminel. » Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. D'autres versions vont dire, je les déteste d'une haine parfaite. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dernièrement, je lisais ce psaume avec ma fille. Et alors qu'on lisait ensemble, soudainement, elle dit, « Mais là, papa, pourquoi il dit ça, là? Ça n'a pas rapport. Pourquoi il est devenu méchant d'un coup, là? » Et on a l'impression que ces versets-là n'ont pas leur place, surtout 19 à 22. Et souvent, si vous voyez des petits, dans des livres, des méditations, des choses, et c'est souvent un verset qui est moins lu. Il est comme, « Ah, il disparaît. » Soudainement, David exprime sa colère envers ceux qui détestent l'Éternel. Qu'est-ce qui le conduit à ça? Hein, depuis le début du psaume, David exprime la grandeur de Dieu. Et comment Dieu est merveilleux, comment il prend soin de lui, comment il protège. Et plus David est émerveillé par Dieu, plus son amour pour Dieu grandit. Et plus il en vient à détester ceux qui sont ses ennemis, ceux qui s'opposent à Dieu. La semaine dernière, pasteur Jean-Frère nous a parlé d'aimer les saints, hein, d'aimer ceux qui aiment Dieu, d'aimer les justes. Et ici, on trouve la même idée, mais à l'inverse. Notre amour pour Dieu devrait nous emmener à détester les œuvres de ceux qui font le mal, à détester le péché. Plus je réalise à quel point Dieu est merveilleux, plus je devrais être étonné, que c'est ça, de revoir que des gens, hein, parce que le texte parle de ceux qui s'opposent à Dieu. Pas juste des gens qui disent « Ah non, Dieu n'existe pas » puis qui font leurs choses. C'est ceux qui sont les ennemis de Dieu. Notez comment David les décrit. Hein, c'est ceux qui utilisent, il dit, ils utilisent ton nom pour mentir. Ils parlent de toi pour appuyer leur projet criminel. C'est des gens qui se disent croyants, qui se disent proches de Dieu, mais qui font le mal. Hein, c'est des menteurs religieux, des hypocrites qui disent « Ah, Dieu! » Puis ils vont promettre des choses au nom de Dieu, puis après ils font le contraire. Je ne veux pas rentrer dans des discussions politiques, mais on entend en ce moment, dans tous les bars, hein, je ne prends pas, mais des gens qui utilisent le nom de Dieu et après on regarde ce qu'ils font ou ce qu'ils promettent ou ce qu'ils disent, on fait « Ah, il y a de quoi je comprends pas. » Et ça ne signifie pas qu'on devrait, on doit chercher à se venger, à punir nous-mêmes les pécheurs. Hein, David ne dit pas « Je vais te faire mourir ceux qui sont tes ennemis. » En plus, il est le roi, il pourrait. David laisse Dieu intervenir. Ici, il ne fait qu'exprimer sa colère face au péché. Il voit le péché et en dedans de lui, ça crée un sentiment de colère. La colère que Dieu a face au péché. Plus David est proche de Dieu, plus que son cœur est semblable au cœur de Dieu. Et trop souvent, on s'est laissé endormir par notre société, par notre culture, et on voit le péché, on fait « Ah, OK, c'est pas si grave. » On regarde des films, on fait « Bon, il y a du péché, mais c'est juste une histoire, c'est pas grave. » On en vient à célébrer un peu ou à accepter le péché de plus en plus au lieu de dire « Non, hey, je veux pas ça dans ma vie, je veux pas ça autour de moi. » Et c'est ce cœur-là que David a. Les déteste de façon absolue. C'est extrême. Hein, puis je pense que c'est important de se rappeler le cœur de Jésus aussi qui regarde la femme pécheresse qui est repentante puis qui dit « T'es pardonné, va et ne pêche plus. Hein, » Jésus déteste le péché, mais Jésus désire le pardon et la repentance. Hein, puis si vous regardez les évangiles, vous voyez comment Jésus est beaucoup plus en colère envers les pharisiens, les scribes, les enseignants de la loi, qui, eux, disent parler au nom de Dieu et qui font le mal, qu'envers ceux qui sont dans le péché et qui savent qu'ils sont pécheurs. Alors, Jésus va être beaucoup plus dur avec les enseignants de la loi qui sont hypocrites, comme ici, comme David. Cette idée-là de dire, voici ce que d'utiliser le nom de Dieu pour faire le mal, autant Jésus que David, c'est ça qu'il déteste. Mais très rapidement, dans le cœur de David, et dans le cœur de tous les croyants dont la conscience est conduite par le Saint-Esprit, une telle prière nous conduit à regarder notre propre cœur. Hein, David dit, « Ah, je déteste, hein, Seigneur, fais mourir le méchant. » Et là, verset 23, « Oh! » David connaît son cœur. Hein? Parfois, moi aussi, je suis méchant. Et verset 23, il dit, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve, teste-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David ne se considère pas supérieur aux autres. Il connaît aussi son propre péché. C'est pourquoi il demande à Dieu de l'examiner, de le tester, de le connaître, de le conduire. Quand David ne se teste pas lui-même, il dit « Seigneur, toi examine-moi. Toi regarde mon cœur et conduis-moi. » Parce que David est conscient que parfois il peut être comme ces méchants qu'il déteste. Et que son cœur a toujours besoin d'être examiné, d'être transformé. Regardez comment les termes du verset 1, hein, verset 1, ça disait « Tu m'examines et tu me connais ». Et verset 23 nous dit « Examine-moi et connais mon cœur ». On retrouve ici, c'est la boucle, hein, c'est le thème, c'est le cœur du psaume. Parce que Dieu connaît toutes choses, parce qu'il est partout, parce qu'il est tout-puissant, il peut examiner nos cœurs et nous conduire dans la voie de l'éternité. Et alors que je vais inviter les musiciens, ce matin, Jésus veut nous conduire à ouvrir nos cœurs à Dieu, qui lui nous examine, qui lui nous connaît. En Christ, alors qu'on prie ce psaume, on se rappelle de l'incroyable connaissance intime que Dieu a. Une connaissance de chacun d'entre nous dans la profondeur de nos pensées, de nos espoirs, de nos peurs. On a l'assurance qu'en Christ, il n'y a aucun endroit dans l'univers qui soit trop sombre pour qu'on soit séparé de l'amour et du soutien de notre Père. On chérit la sagesse infinie de notre Père créateur qui nous a tissés, qui nous a créés, qui a ordonné chaque jour et chaque nuit de notre vie sur terre. Et finalement, on s'ouvre à nouveau à être examiné encore aujourd'hui par son regard d'amour. Hein, parce que c'est ça, être examiné par Dieu, c'est être examiné par un Dieu méchant ou sévère ou qui n'est pas rempli d'amour, ça serait juste épeurant. Un Dieu qui fait juste voir le mal puis juger automatiquement. Mais on sait qu'on a un Père d'amour. Quand vous avez des amitiés, et parce que vous savez que vos amis, quand vos amis vous aiment vraiment, vous êtes capable d'être plus authentique. Vous êtes beaucoup moins authentique avec des gens dont vous doutez de l'amour ou vous savez que si vous dites quelque chose, ils vont l'utiliser contre vous. Mais quand vous savez que quelqu'un vous aime, peu importe, vous êtes capable d'être vrai, d'être authentique, de vous ouvrir. Et face à Dieu qui nous aime d'un amour infini, on a cette confiance que quand il nous examine, c'est pour notre bien. Qu'il nous, dans le but de nous conduire dans la voie de l'éternité. Quand Dieu nous regarde avec son regard d'amour, il nous purifie, il nous conduit vers le chemin de la vie éternelle, où le mal va avoir enfin disparu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia, Jésus. Père éternel, on vient devant ton trône, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, on te remercie parce que tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais parfaitement et tu nous connais intimement, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu veux être en relation avec nous comme personne ne le veut, Seigneur. Tu nous connais comme personne ne nous connaît. Et malgré cela, tu continues à vouloir t'approcher de nous. Tu continues à vouloir entrer en relation avec nous comme un père avec ses enfants, oh Dieu. Seigneur, on te remercie ce matin parce que tu es là pour nous, Seigneur. Peu importe où nous sommes, Seigneur. Peu importe ce que nous vivons, nous savons que tu nous accompagnes, Seigneur. Alors qu'on traverse les feux, alors qu'on traverse les mers, tu es avec nous, Dieu. Peu importe la grandeur de nos difficultés, de nos épreuves, Seigneur Dieu, tu es là, Jésus. Père, on te remercie parce que tu nous as formés, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que tu nous as voulu. Seigneur, Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui savent qu'ils n'ont pas été voulus par leurs parents, qui ne se sont jamais sentis aimés. Mais ce matin, tu leur dis, tu as été voulu par moi. Seigneur, tu nous as créés, tu nous as tissés, oh Dieu. Dans le ventre de notre mère, tu étais là à agir, Seigneur Dieu. Nous sommes une créature merveilleuse en toi, Seigneur Dieu. Ce matin, on veut te remercier, on veut te adorer, on veut te louer, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour le corps que nous avons, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as des projets pour nous, Seigneur. Des projets de bonheur, Seigneur, des projets de vie, Seigneur Dieu. Des bonnes œuvres que tu veux qu'on accomplisse, Seigneur Dieu. Aide-nous, conduis-nous, Seigneur, à marcher dans les voies que tu as planifiées pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, examine-nous, Dieu. Examine nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit nous parle et nous montre, Seigneur, si nous sommes sur des mauvaises voies. Et que tu puisses nous conduire sur ta voie, Seigneur Dieu, sur la voie de la vie éternelle. Seigneur, alors qu'on va se chanter ce chant, qu'on va t'adorer, oh Dieu, que ton esprit puisse parler à nos cœurs. Alléluia, Jésus. Oui, agis ce matin.